Et bonjour à tous et à toutes. Ça va tout le monde, ouais.
Ah, c'est entré en gars.
Pour démarrer cette semaine apocalyptique, n'est-ce pas? De
carrément.
Nouveau podcast, l'émission 523. J'ai failli oublier le chiffre, mais tout va bien.
La semaine plutôt calme en plus.
Exactement, c'est une semaine plutôt calme. Bon, il n'y a pas eu de grève, donc ça va, on a pu venir à la rédac.
En hélico.
En hélicoptère, exactement. Avec Johnny One.
Tout à fait, bonjour.
Ça va Johnny, tout va bien?
Ça va, tranquille.
Tout ça, qui prend?
Ça va.
D'accord. Tranquille. Thomas.
Hey.
Évidemment. Présent, ah ici
ouais.
À nos côtés.
Et très content parce qu'on va parler plein de jeux à l'ancienne.
Plein de jeux chelous.
Arcade et tout, c'est cool.
Exactement.
Ça va être bien, rester.
Restez, vous allez voir, vous allez être surpris. Et Camille à mes côtés.
Oui. Je ne suis pas forcément vous parler de bons jeux, mais
voilà.
Mais restez quand même.
C'est quand même.
Tu as parlé ça peut être rigolo.
Parler de la fin du monde et tout ça. Et Poufy la technique aussi, évidemment, qui réalise des missions et qui s'endort au bout de 2 minutes. Non, je déconne. Détendez-vous. Tout va bien se passer, n'est-ce pas, mesdames et mesdames? À commencer par le win, le fail, évidemment. Les trois thèmes. Bon, évidemment, comme vous le savez, l'actualité n'est pas ultra dingue. Mais on a quand même réussi à aller voir quelques jeux. Un peu partout en Europe, ou presque. Avec Outriders, donc Camille va nous parler, donc, pour
exact.
Le thème numéro 1. Il y aura aussi du Street 5
tout
Ultra.
À fait.
N'est-ce pas, Johnny One, que tu as retourné dans presque tous les sens.
Du terme.
Et évidemment, les fameux jeux dont parlait Thomas. Deux compiles de shoot très sympas sur Switch. Il vous dira ce qu'il en pense et si vous devez les acheter en collector
du
ou pas.
Du jeu à l'ancienne.
À l'ancienne. Il y aura évidemment l'anniversaire. Ça ne me dit absolument rien cet anniversaire, mais
tu vas le découvrir.
Vous exactement. Là, j'avoue que je sèche. Et puis il y aura le hors-jeu aussi. On vous réserve la surprise. Vous verrez ce que c'est. Mais on commence tout de suite par le win. Camille,
oui, c'est moi.
Et non pas Thomas.
Eh bien, on va vous parler d'un jeu tout récent, ou The Witcher 3.
C'est vrai.
Un petit jeu.
Un mini jeu.
Ouais, The Witcher 3. Bah, comme vous vous doutez, hein, c'est un jeu exceptionnel. Hein. Si vous n'y avez pas joué, bah, jouez-y. Vous serez pas déçus, je pense.
Parce qu'il y a 5 euros.
Et du coup, bah, le jeu, les ventes aux États-Unis particulièrement explosent toujours. Donc, on se dit que bah, si ça explose aux États-Unis, ça explose forcément en France aussi et ailleurs en Europe. Mais en tout cas, là, à l'heure actuelle, c'est le cabinet d'études américain The NPD Group. Qui a donc réalisé une étude sur les ventes et ils se sont rendu compte que entre décembre 2018 et décembre 2019, enfin par rapport à décembre 2019, les ventes ont avait augmenté de 554%,
c'est super
phrase,
précis,
ce qui est énorme.
Ce qui est énorme, oui.
Ce qui est énorme et une des raisons de ce chiffre record, on peut l'imaginer, c'est grâce à la série Netflix qui est diffusée actuellement, enfin qui est disponible actuellement
sur Netflix,
ouais. sur The Witcher avec ce cher Henry Cavill dans le rôle du sorceleur. Une série qui a très bien marché aussi, donc bah du coup ça fait un effet boule de neige, les gens retournent sur le jeu, les gens jouent au jeu, donc du coup ils regardent la série et ainsi de suite. Et voilà.
Et certains découvrent le jeu aussi avec la série peut-être.
Ouais, aussi c'est possible aussi. Ouais.
Ils sont dit tiens,
c'est
sympa.
Il y a eu la sortie Switch aussi récemment, je crois.
Exactement.
Il y a eu Switch,
mais en l'occurrence, la sortie Switch elle a pas eu un. Enfin, oui. C'est pas ce qui a eu le plus d'impact.
C'est pas le jeu le plus fluide du monde déjà.
D'après les études du cabinet, c'est surtout sur les versions console classiques de salon et la version.
Moi je l'ai réinstallé chez moi.
Comment?
J'ai installé le jeu, j'ai les DLC à faire, les deux extensions Heart of Stone et
sur quelle machine, PS4?
PS4, ouais.
D'accord.
Et je les ai jamais faites, le jeu je l'ai retourné, le jeu de base. Mais j'avais laissé tomber. Non, j'ai pas platine parce qu'il fallait le finir en difficile, ça. Mais j'ai tous les autres trophées, il me manque que celui-là.
Il précise bien les versions hors Switch hein, qui sont comptées dans.
Bon, en tout cas, c'est un bon énorme en avant. Merci la série, quoi.
Mais surtout qu'en plus, c'est un effet boule de neige encore double. C'est-à-dire que bah, du coup, ça fait connaître CD Projekt encore plus par les non-initiés. Et puis, bah, ils vont apprendre sur Cyberpunk et ainsi de suite. Et Cyberpunk, on peut penser qu'il aura le même genre de chemin, quoi.
Ouais, tout à fait.
Il n'y a plus qu'à sortir la trilogie.
Ouais, et Witcher 4 peut-être.
Le jeu n'a pas battu que des records de vente. Il y avait une news il y a quelques temps aussi qui disait qu'il avait battu le record de joueurs en ligne en même temps sur Steam.
Ouais.
En simultané. Exact. Genre en 2019, et il a été battu ce record alors que le jeu il date de 2015. Quoi.
Ouais. Donc, mais c'est sûrement effectivement grâce à la série.
Ouais, sûrement grâce à la série. Ça
fait que les gens sont arrivés dessus ou ont voulu le relancer ou que sais-je.
Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur un dernier truc, c'est que les livres aussi, pour le même coup, se sont très bien vendus avec la diffusion de la série. Quoi.
Tout à fait. Les gens ont voulu en savoir plus.
Du coup, l'auteur, il s'y retrouve là. Ça y est, il a
l'auteur.
Lui, il avait rien sur les jeux vidéo. Il a eu un cachet, je crois.
Oui. C'est il
ça.
A finalement réussi à avoir un peu d'argent
de 300
la part du studio.
Et...
Non, il avait bien dealé après. Ça a effectivement, ça a duré quelques années.
Parce que là, du coup, lui, il doit avoir de la thune sur la série, j'imagine. Là, il a bien dû négocier son contrat.
Surtout
cette
qu'en plus, la série, elle est adaptée du livre, oui, pas du jeu vidéo. Donc
non seulement ça ne se vend pas pour lui, on va dire. Se vend encore plus. Il gagne de la thune sur la série, probablement.
Ses bouquins se vendent un peu plus aussi. Bah ça va, il est content, je pense. Hein. Je pense
qu'il
a bien fait son beurre avec un roman, en fait. Enfin, un roman.
Non,
avec une série.
Une série, on va dire. Effectivement. Merci pour ce win, donc, Camille. Passons au fail, Thomas. Et là, c'est moins réjouissant.
Ouais,
pas
des histoires de gros sous. Le feuilleton Starbreeze continue. Starbreeze, développeur de la série, notamment Payday, qui était un peu dans l'œil du cyclone, puisque ces derniers temps, on apprenait que le studio avait failli fermer ses portes en proie à des difficultés financières. Il s'était séparé de 60 employés, histoire d'alléger un peu la machine, hein. Je pense que, comme on dit dans Les Trois Frères, mais voilà, de temps en temps, il faut retirer du linge sale, hein, n'est-ce pas? Et du coup, bon, le studio avait quand même pu restructurer un petit peu sa dette. Il était resté à flot et donc il existe encore aujourd'hui. Sauf que là, on apprend cette semaine que la justice suédoise a condamné son ancien CFO, donc le directeur financier en fait de l'entreprise, qui s'appelle Sébastien Alskog. Donc je le prononce certainement mal parce que ça doit être du suédois ou un truc comme ça.
Exactement.
Et finalement, en fait, ce cher Sébastien, qui était parfaitement au courant de ce qui était en train de se tramer au sein du studio, en avait profité et en fourbe au mois de novembre 2018, donc à peu près 6 ou 7 mois avant l'annonce des premiers désagréments de Starbreeze, et bah, il avait revendu une bonne partie de ses actions. En sachant que bah, ça allait forcément beaucoup moins coter quelques mois plus tard. Du coup, il s'était fait quelques 66 460 euros de bénéfices au passage. Sauf que cette pratique, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un délit d'initié. Ici. Et du coup, il s'est fait épingler par la justice suédoise, qui l'a condamné à évidemment bah, rembourser la somme en question. Ouais. Et en plus, à 3 800 euros d'amende, sachant que le PDG de Starbreeze, Bo Anderson Klint, qui lui avait été un temps soupçonné également de délit d'initié, a finalement lui été relaxé. Voilà. Tout comme quoi, les questions de gros sous, ça finit toujours par vous rattraper.
Et en plus, c'est amusant entre guillemets, qu'une semaine avant la publication de cette news, on apprenait que le studio Starbreeze allait mieux parce que justement, ils étaient en train de rechercher
un éditeur
pour Payday 3.
Exactement.
Donc, comme quoi, les choses s'enchaînent.
Ça peut tourner vite, ouais. Exactement. Merci Thomas donc, pour ce fail. Et passons tout de suite à la rubrique Il y a 10 ans sur Gameblog. Et Thomas, comme toujours, c'est toi qui t'y colle.
Et ouais. Et en plus, il y a une super transition puisqu'il est encore question de gros sous cette fois-ci pour commencer l'actualité du passé. Puisqu'il y a 10 ans, on apprenait sur Gameblog grâce à Faskill, qu'on salue. C'est pas souvent qu'il est cité dans cette rubrique.
Exactement.
On apprenait que le Sénat, en fait, retoquait ben, un ancien rédacteur.
Un ancien rédacteur.
En charge Johnny One. Tu ne lis pas Gameblog?
Non, pas vraiment.
Quelle honte.
Bon, ça fait longtemps en même temps.
Il y a 10 ans, le Sénat retoquait en fait une proposition de loi qui visait à rabaisser en fait le seuil à partir duquel un studio pouvait demander des aides de la part de l'État, puisque en fait, il fallait que le projet dépasse à l'origine les 150 000 euros pour pouvoir prétendre justement à une aide. Et l'idée, c'était de faire descendre ce plafond à 100 000 euros, puisque entre temps, on s'était rendu compte finalement que le jeu vidéo avait quand même pas mal changé et qu'il n'était plus forcément question de sortir des jeux en physique, et que le dématérialisé du coup demandait un petit peu moins de budget, et l'idée c'était d'ajuster justement le plafond à la réalité de l'économie du jeu vidéo, et le Sénat avait décidé que pas du tout, le marché a changé, mais finalement c'est pas grave, on va maintenir le plafond de 150 000 euros.
Sans que c'est nous qui payons.
Voilà, on s'en fiche un peu, du coup bah, on vous en parlait parce que ça n'allait pas forcément dans le sens des studios de développement.
C'est exact.
Heureusement, de l'eau a coulé sous les ponts depuis, puisque... En 5 ans, alors ça c'était dans l'argumentation, pardon, qui était pour te dire, voilà, on avait voté le truc il y a 5 ans. Entre temps, en fait, on a enfin rabaissé le plafond à 100 000 euros, c'était en avril 2015, donc ça aura pris quand même quelques années, justement, 5 années supplémentaires, et c'est aujourd'hui toujours le cas, le plafond pour demander une aide de la part de l'État est toujours fixé à 100 000 euros.
Ce qui est pas mal quand même, c'est quand même assez conséquent, quoi.
Ce qui est pas mal, mais quand tu dis par rapport à des pays comme la Suède qui ont beaucoup justement accès là-dessus sur les dettes financières, ça a permis du coup à énormément de studios de s'installer là-bas, et je trouve que c'était une bonne chose aussi, ça permet de. Voilà, d'avoir de gros services de jeux vidéo sur place, c'est quand même surtout que ça fait longtemps qu'ils ont fait ça
C'est pensé au sac ça paye, c'est qu'il y a eu une politique volontariste qui a été mise en place en Suède notamment, et effectivement on voit aujourd'hui les bénéfices.
C'est ça, et je crois il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, ils ont offert à chaque citoyen suédois un ordinateur. pour avoir un accès, pour justement démocratiser.
Ça serait compliqué en France quand même.
Ouais, les nouvelles technologies.
Bah, tu sais qu'on le fait dans les collèges et tout le monde gueule quand c'est le cas. Donc,
Bah oui, forcément. Il casse tout au bout de deux jours.
Non, mais comme quoi, il y a certains pays qui avaient vu, qui avaient senti, qui avaient senti que le jeu vidéo pouvait rapporter gros déjà il y a pas mal d'années. Quoi.
Tout à fait.
Ensuite,
attendez. Poufy, est-ce que tu peux nous remettre vite fait la news et regarder si on voit la tête de Fastkill sur sa photo en bas de l'article.
Ah non. Tu vois, c'est un dessin de Candy.
Ça donne une idée de qui c'est.
Bah écoute, tu cherches ça sur le net, tu verras.
On avance un peu plus dans l'histoire et nouvel espoir et rebondissement.
Pour cette remake.
Si vous nous aviez suivi il y a une poignée de semaines, on vous parlait de l'impossibilité selon Kitase de voir Final Fantasy VII faire l'objet d'un remake. Et bien finalement, quelques semaines plus tard, ce cher Raan nous expliquait que le même Kitase s'était dit que bon, finalement, ce serait quand même intéressant. Et la déclaration que Poufy vous met à l'écran, justement, c'était celle-ci que je voulais vous lire. Je serais vraiment très intéressé de voir cette forme plus complète de Final Fantasy VII représentée avec plus de réalisme. De réalisme, oui. C'est vrai qu'en même temps, t'avais commencé sur du debouze, donc on peut continuer. Bref, il y avait déjà les pistes qui nous mènent finalement à l'épisode qui va sortir d'ici quelques semaines, puisque si vous avez vu la cinématique d'introduction qu'on a mis sur Gameblog il n'y a pas longtemps, vous avez bien compris que l'histoire va quand même être un petit peu plus fouillée que la version originale d'FF7, puisqu'on a pu apercevoir des pans entiers du secteur 7 et de Midgar en général qui étaient complètement absents de la version originale. Donc, il y a déjà 10 ans, l'idée finalement trottait dans la tête de Kitase, qui va bientôt la réaliser, puisque...
Et 10 ans après.
Le jeu sort au mois d'avril.
Exactement.
On y est presque.
Tout va bien.
Voilà, donc c'était évidemment pour faire écho à la news d'il y a 2 ou 3 semaines où on vous expliquait que ça n'était pas possible de faire un remake de Final Fantasy VII.
Comme quoi,
et enfin, pour terminer,
dernière,
parlons un peu de Versus Fighting, puisque Johnny One est dans la place.
Tout à fait.
Une fois de plus, Raan nous laissait penser il y a 10 ans que la série Killer Instinct pourrait un jour revenir sur le devant de la scène, puisque bah, après 2 épisodes ou 2 épisodes et demi, si on compte la version Gold qui était sortie sur N64, la série était un petit peu tombée dans l'oubli. Et puis finalement, le creative director d'un des studios de Microsoft, justement Kenneth Loeb, avait fait part de son envie de la voir revenir en disant que bon, ils travaillaient pas sur la série pour l'instant, mais ils avaient l'envie de ressusciter Killer Instinct. Et finalement, eh ben, 3 ans plus tard, ça a été quand même assez rapide, la série est revenue, alors non pas via Natal comme l'imaginait éventuellement Raan à la fin de sa news, de manière beaucoup plus classique, sur Xbox One et sur PC, c'est donc en novembre 2013.
Natal, c'est Kinect, hein.
Oui,
ça aurait été une catastrophe.
C'était le projet Kinect, effectivement.
Ça aurait été une catastrophe, mon dieu.
Ah bon, rappelle-toi Dragon Ball Z for Kinect.
C'était une catastrophe.
Voilà, ce genre de chef-d'œuvre.
Star Wars Kinect.
Oui. Et puis du coup, le jeu a quand même été alimenté, puisque jusqu'en 2016, il y a eu 3 saisons de combattants supplémentaires. Donc le jeu est revenu. La série s'est à nouveau arrêtée, mais en tout cas, pendant 3 ans, les fans de Killer Instinct auront eu à nouveau de quoi se mettre
Xbox
sous la dent.
Il est tentaculaire, pantagruesque, le jeu, je crois, il y a genre 5000 points de trophée à ma. 5000 points de succès à ma.
Ok, je pensais que t'allais parler du gameplay.
Non, moi j'aime pas trop Killer Instinct.
Voilà. Ah, je trouve ça sympa.
C'est un gameplay à l'américaine.
Ah oui, bah carrément.
Combat, tu vois.
Ah bah tu prêches en convaincu, hein, tu sais. Non,
c'est pas trop mon kiff, voilà. Ça l'a jamais trop été.
Parfait. Merci pour ces news d'il y a 10 ans qui nous rajeunissent à chaque fois un peu plus.
Et
toujours. Merci Thomas. Et si nous passions, chers amis, au thème number one, qui n'est autre qu'un jeu qui s'appelle Outriders et que Camille a pu aller voir en Pologne il n'y a pas très longtemps.
Exact, donc développé par People Can Fly, qui est un studio qui a notamment travaillé sur leur premier jeu, c'était Painkiller, qui était quand même un bon jeu.
Painkiller.
C'est ça, c'était vraiment bien. Ils ont notamment aussi travaillé sur les années 2010 sur Bulletstorm, qui était aussi un excellent jeu. Peut-être même mieux que Painkiller, enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'entrevois. Et ils ont aussi travaillé avec Microsoft sur Gears of War, notamment sur les portages. Ils avaient fait le portage PC de Gears 1, ils avaient fait le portage, enfin la partie Xbox 360 de
avec
Gears 2.
Avec le chapitre
2.
En plus.
Exactement. Donc c'est quand même un studio avec un beau bagage pour le TPS et pour le shooter de manière générale. Donc on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de croustillant à se mettre sous la dent en fin de service.
Vous la sentez l'entourloupe là ?
Alors qu'en fait.
Ou pas.
En fait. Comment vous expliquer ça?
En fait, sous la dorure.
Ouais. Alors comme je l'ai expliqué dans ma preview écrite que vous pouvez retrouver, ce Outrider, c'est un peu un Gears of War. Vous prenez en fait la surface Gears of War, le système de TPS, etc., le shooter qui se veut nerveux, etc. Vous rajoutez les animations bidesques et un peu nanarlesques de Mass Effect Andromeda. Et par-dessus, qu'est-ce que vous faites ?
Vous rajoutez une couche de...
Vous rajoutez exactement une couche de bah, de tout ce qui se fait de on va dire de clichés dans le TPS et de mauvais, c'est-à-dire comme dans Anthem, vous prenez un univers un peu
effectivement c'est inquiétant Anthem si tu
un univers cliché à souhait très classique, ultra classique. Vraiment, en fait,
quand t'es hipster,
il y a certains moments dans le jeu, notamment
le look des personnages avec une grosse barbe et les cheveux plus haut au-dessus et rabattus en arrière. C'est le truc bien dans son époque.
Exactement. Quoi.
C'est ça. Et à certains moments, en fait, alors pour vous resituer, donc c'est un TPS multijoueur, notamment, enfin surtout coop en fait, qui se veut très proche d'un Destiny-like. Disons que le but, ça va être de former une équipe, ensuite de partir à l'aventure, faire des quêtes annexes, etc. Monter en skill et surtout monter en équipement. Donc ils ont bien voulu nous préciser dès le début que voilà, le jeu était absolument pas free to play, était ils voulaient vraiment une expérience premium avec une
genre
expérience
évolutive,
de jeu, voilà, un système évolutif, une expérience premium évolutive aussi au niveau du matériel, vraiment comme un Destiny, les amateurs Destiny le savent bien, que ce soit dans le 1 ou dans le 2.
Oh là là, mon dieu, des images de gameplay.
Ah oui, bah,
ça change de ça change de l'intro.
Oh putain. Et, désolé,
t'es pas au bout de tes surprises.
Il y a la vidéo qui passe là, pour ceux qui l'ont en podcast.
Oh là là, il y avait les cinématiques depuis tout à l'heure là, ça y est, c'est passé sur le gameplay.
C'est vrai que les cinématiques rendaient bien, tu dis,
ah
mais
ouais,
c'est bizarre.
Non,
quoi,
mais c'est
le
pourquoi
jeu,
il défonce le jeu, ça a l'air
là c'est
cool.
La douche froide, c'est la douche froide. Et donc t'as le côté armure très importante où tu commences vraiment, bah vous le voyez pour les premiums, hein, vous commencez limité.
Il est en short,
non, pour
le
tout
mec.
Monde,
en, ouais, pour tout le monde, c'est vrai. En short, en caleçon, ce que vous voulez, ensuite vous montez en gamme et vous avez des armures de plus en plus grosses, plusieurs plus belles pour épater vos potes, etc. Donc ça, c'est un peu le côté loot très important. Alors du coup, pour un shooter, la problème, c'est que c'est un peu. Bah alors je l'ai mis dans le titre, hein, c'est un peu un Gears of War sous sédatif, c'est-à-dire que ça s'inspire de Gears, on sent qu'il y a le côté bourrin qui va être présent, qu'il y a le côté devoir foncer dans le tas,
oui,
mais
tu peux toujours te planquer forcément,
t'as le côté justement de se mettre à couvert qui est hyper important, mais effectivement des affrontements très bourrins avec des grosses armes un peu badass, des personnages un peu badass, etc.
L'ambiance visuelle aussi, parce qu'en termes de couleurs, de gamme chromatique, on est très proche de ce que fait Gears of War.
Exactement, t'as ce côté-là aussi avec
des ennemis,
en plus moche, oui.
Des ennemis qui sont souvent très impressionnants. Alors nous, on est à jouer à les premières parties du jeu, notamment le tutoriel que vous voyez là à l'écran. Mais il y a des ennemis qui sont assez assez monstrueux, qui font 2-3 mètres,
en coop.
Un peu impressionnants. De quoi ?
T'étais en coop ?
Ouais, j'étais en coop. Ouais. Je jouais avec JVcom et GK. Et du coup, ouais, on s'est tous dit la même chose voyant le jeu. Et du coup, on s'est surtout dit que effectivement, le jeu avait un gros retard technologique déjà que vous voyez à l'écran.
Les animations sont
mais même au niveau des armes, quoi, t'as aucun recul. Pour un shooter, c'est un peu problématique, t'as l'impression de tirer avec de l'airsoft ou du paintball.
Non, ça a l'air très rigide, très balayé dans le cul,
c'est
quoi.
Et puis en plus t'as des animations quand tu discutes avec les PNJ et tout, et t'as vraiment des animations à la Mass Effect Andromeda, tu sais, avec des expressions, bah tiens, je sais pas, c'est toi qui avais fait le test Mass Effect Andromeda, un peu figé, ou tu sais, un peu suranné, ou au contraire très très abusif, dans le sens où le personnage va ouvrir sa mâchoire grand, il va faire des gros yeux, enfin ça paraît invraisemblable.
Too much, quoi.
Alors ils nous ont quand même précisé que le jeu ne sortait que pour les vacances de fin d'année.
Ouais, mais c'est dans pas longtemps. Hein.
Donc ouais, enfin c'est mine de rien. Mais du coup, effectivement, il peut y avoir encore des bugs.
Ils peuvent polish, etc.
Voilà.
Ouais, c'est sûr.
Donc effectivement, les bugs classiques du style personnage qui se bloque dans un mur, etc. Ça a le temps d'être résolu. Mais il y a certaines choses comme les sensations de shoot, le côté vraiment très générique de la chose. Ça, j'imagine mal les choses être résolues d'ici 8 mois.
Ouais, parce qu'il faudra faire tout le jeu là.
C'est un peu la problématique, quoi.
Mais surtout, moi, ce qui me choque le plus, moi, c'est les animations. Hein.
C'est extrêmement rigide.
C'est le perso, il est méga rigide.
Même la gestion des dégâts, t'as pas l'impression qu'il y ait d'impact quand toi tu tires, et même quand toi tu reçois des balles ennemies, t'as l'impression que le personnage s'en fiche un peu, reste debout.
C'est ça. Le truc, c'est que.
Bah, ces animations, quoi, ils en ont pas mis. Hein.
Si c'était comme Fallout où c'est un FPS, et les animations sont rigides de ton personnage, mais du coup, tu le vois pas, ou tu vois pas.
Ouais,
du coup, il y a pas de problème.
T'as la vue TPS dans Fallout, hein.
Ouais, mais personne.
Oui,
Comme ça.
Ah ouais. Ah moi je trouve ça. Ouais, mais c'est pas fait pour ça justement. Il est pas fait pour ça.
On va dire que la
majorité quand on te l'impose
gens...
comme ça, c'est compliqué quoi.
On va dire quand même la majorité des gens jouent en FPS, donc du coup ils sont pas trop non plus.
Tiens, d'ailleurs, Outer Wilds, ça m'a choqué que ce ne soit que un FPS, ouais, qu'il y ait pas de vue troisième personne.
Mais du coup là, pour un jeu qui est vraiment uniquement TPS, c'est vraiment problématique, surtout que tu dois souvent te mettre à couvert, etc. Donc ton personnage, tu as tendance des fois à le voir en gros plan. Et quand tu vois les animations, quand il se tourne, qu'il tourne ses armes, qu'il parle à ses coéquipiers, etc., ça fait tiep, comme dirait Trace. Il y a ta côté ben, vraiment. Oui. C'est un peu problématique et tu sens vraiment le jeu qui est ancré dans une époque.
C'est qui a voté pour passer la cinématique, c'était toi? Ah, vous êtes deux à avoir voté.
Non, on voit que vous pouvez voter effectivement dans la vidéo pour savoir quoi faire.
Qui zappe la cinématique?
Je suis coupable, c'est moi qui voulais zapper les cinématiques.
Le salaud.
Tu les avais peut-être vu 50 fois aussi, c'est possible.
Parce que, en fait, pour rien vous cacher, on a eu des crashs en notre session. Alors du coup, j'ai même pas pu terminer la démo en fait, parce que moi, ma version refusait catégoriquement de se relancer.
C'est les aléas des fois des versions prévues.
Oui, ça la limite. Bon.
T'avais toute l'équipe de dev qui était derrière moi qui disait allez, on va essayer de résoudre le truc.
Qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as cassé?
C'était pas trop grave parce que comme ça peut arriver sur des jeux vidéo, même les meilleurs. Mais là, t'avais vraiment le souci.
Là, c'était pas le meilleur. Là.
C'était pas le meilleur. T'as vraiment tous les soucis qui sont autour. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors t'as aussi des problèmes qui sont assez, encore une fois, ancrés dans le temps et qui ne correspondent plus à notre époque. C'est par exemple, outre les graphismes, les problèmes de difficulté. C'est-à-dire qu'en gros, que tu joues en coop ou en solo, la difficulté n'est pas adaptative. Donc en fait, t'as exactement la même expérience. Donc du coup, si tu bats un boss tout seul ou à 3 avec 3 amis,
ouais, tu 3 c'est pété.
Voilà, donc soit ils mettent les
là, boss. Il y a l'air d'avoir du monde à l'écran là.
Ouais,
il y a du monde au balcon, ouais.
Donc soit c'est trop compliqué, soit c'est trop simple. Donc t'as vraiment c'est très difficile à gérer.
Ça paraît dingue quand même de pas avoir pensé à ça en termes d'équilibrage de mécanique. Enfin, c'est tellement la base, surtout pour un jeu du genre.
Oh, regarde Monster Hunter World, elle est adaptative la difficulté, mais elle s'est adaptée encore plus qu'avec Iceborne. C'est-à-dire il y avait mode solo ou 4 joueurs. Là maintenant il y a solo, 2 joueurs, 4 joueurs.
Oui, c'est ça. Donc là t'as vraiment une vraie
comme Fortnite.
Ouais, une expérience particulière quoi.
Ah, mais tu modules au moins les dégâts, tu vois, à la limite tu changes pas forcément toute l'interface, mais tu fais quelque chose.
Donc là en plus il y a 4 classes qui sont différentes. Alors pour le coup, ils ont bien travaillé les classes, elles sont assez sympas, il y a vraiment des côtés différents. Alors, moi j'avais pris le pyromancien. Alors ça reste classique dans le jeu vidéo, mais elles s'entendent bien les uns les autres, les classes. C'est-à-dire que j'ai trouvé plus.
Il y a une vraie complémentarité.
Voilà, il y a une vraie complémentarité entre les classes. Et ça, pour le coup, c'est un bon point, surtout pour un jeu qui est majoritairement coop. Mais comme je disais, c'est très ancré dans le temps. Et surtout, ça vraiment, c'est très daté. Et c'est la grosse problématique, c'est un jeu next-gen. C'est un jeu qui est censé sortir
sur PS5.
Sur PS5 et sur Xbox Series X. Et surtout, l'un des premiers, puisque la PS5 et la Xbox Series X va sortir techniquement vers la fin de l'année. Ou un poil avant peut-être, mais en tout cas vers la fin de l'année. Et ça, c'est un jeu qui est prévu pour la fin de l'année, donc ça sera un des tout premiers jeux qu'on aura
le futur squatter
des bacs à soldes. C'est un des premiers jeux next-gen.
Le premier jeu qui va envoyer les bacs à soldes à 5€.
Est-ce qu'ils sont pas dit on va être le premier TPS multi coop
de la prochaine année? Et on le rush un peu à la fin.
C'est exactement ça. On va être.
Ça arrive souvent, ça, de toute façon.
On va vouloir être le Destiny de la PS5 et de la Xbox Series X, et du coup, on fait des trucs très rapidement.
Tiens, ça, t'en as pas parlé. Moi, c'est quelque chose qui me fait très flipper par rapport à ce jeu-là, justement, c'est son comportement Destiny-like. Parce que, c'est bon, il y en a marre de ce jeu, en fait. Là, qui te force à te connecter tous les jours, t'as tes objectifs quotidiens qui vont te faire looter, parce que tant que t'as pas fini le jeu, ça va, hein, ton perso il grimpe, tu passes du level, ça, y a pas de soucis. Mais dès que t'as fini le jeu, aïe aïe aïe, là ça grimpe tout doucement. Il faut bien que tu fasses tous tes objectifs quotidiens, tes objectifs hebdomadaires, aller voir les PNJ, aller voir les missions secondaires machin et tout. Et en fait, en vrai, ton jeu, faut que tu joues tous les jours. Il y a un soir de la semaine, tu peux pas jouer. Mais t'es marron, t'as perdu ta semaine, quoi. Limite presque. Et bref, voilà, je poussais un coup de gueule contre ce type de jeu-là.
Ah oui, bah,
et si, moi j'en ai soupé cette année, hein, j'ai joué à Anthem, j'ai joué à Destiny encore.
T'as réussi à jouer à Anthem?
Ouais, je l'ai fini. Pff, oh là là, mon dieu. Mais j'ai pas fait le post-game, je me suis pas infligé ça.
Il y a le fanfare dehors qui passe.
On entend des trompettes dans la rue, voilà.
C'est pas grave, je pense que vous entendez pas.
Mais... Et non, voilà, j'en ai soupé de ce genre de jeu un peu.
Bah écoute,
cette année,
ça sera pareil, c'est tout, hein, qu'est-ce que je te dise.
Celui-là,
ça prend la même direction.
J'y jouerai pas, voilà.
Mais si, t'as des succès à gagner, t'as des trophées.
Ah non, c'est Camille qui fait le test de celui-là.
T'as des succès, des trophées à faire.
Bah ça prend la même direction, mais sans le côté où tu peux acheter des choses en fait avec de l'argent réel, quoi. Puisque vraiment ils veulent pas cet aspect pay to win, ils veulent vraiment une expérience premium où t'achètes ton jeu
et c'est tout.
Et tu débloques avec ton expérience, mais pas avec ton porte-monnaie, quoi.
Ceci dit, là le niveau qu'on voit en ce moment à l'écran, c'est pas si moche, hein, quand même. Alors après, je sais pas dans quelle mesure c'est de la vraie next-gen, un PC surgonflé ou je sais pas quoi.
Bah honnêtement, de ce qu'on... De ce
je sais pas que c'est beau, hein, je dis que c'est pas...
Bah c'est ce qu'un PC faisait il y a 5 ans de bien, quoi. Bon, en gros, en
oui, oui, de... c'est possible.
Mais, non, mais très clairement, c'est pas du tout une expérience de ce qu'on s'attend de la PS5, ouais. Quoi. Enfin, ça... Ça, c'est vraiment problématique aussi.
Oui, et voilà. Puis surtout de la part de ce studio en plus, qui, comme tu l'as rappelé, a quand même un background bah assez oui, sympathique. Oui.
C'est ça, ouais.
Pourquoi ils n'ont pas continué à faire un jeu ultra bourrin comme ils faisaient avant?
Bah parce que j'en avais marre, Storm, c'est tout.
Les...
Killer, parce que la mode ça. Est au TPS multi.
Mais non, mais de toute façon, c'est un jeu qui se veut dans la même continuation.
C'est quand même bourrin, regarde, tout à l'heure, il y a
rien bourrin du tout.
Par contre, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de corps à corps.
Le mec, il tire au lance-grenade et on.
Il n'y a pas de corps à corps comme un Gears.
On voit même pas l'écran trembler, rien du tout.
Oui, t'as pas les finishes un peu violents, effectivement.
C'est ça, c'est que du shoot.
C'est ça, je dis que t'as moins le côté épique en fait d'un Gears.
Mais oui, c'est ça.
Déjà, il n'a pas de tronçonneuse sous sa mitraillette.
Oui, bon, après ça, c'est spécial.
T'as vu, il invoque les esprits.
Donc t'as ce côté aussi MMO qui est très présent. Donc t'as un arbre de skills que tu débloques. Tu peux avoir jusqu'à 8 skills différentes et 3.
Et faut
3...
te connecter tous les jours.
Non, pour l'instant ils ont pas précisé ça, mais.
Mais en tout cas,
t'as un côté MMO qui est très prononcé où tu montes en level. Voilà. Pour l'instant, honnêtement, ça fait assez peur dans la mise en scène, dans la direction artistique, dans la direction technique, dans l'IA. L'IA est complètement. Alors l'IA, c'est une catastrophe, mais vraiment. Alors certes, dans un Gear, c'était pas ce qu'il y avait de meilleur, mais
oui,
quand
c'est
même,
ça.
T'avais puis... quand même un côté où tu ressentais le danger, quoi. Là, c'est même pas le cas. C'est les ennemis, ils te foncent dessus.
Ils tombent tous comme des mouches.
C'est ça,
après
ouais.
Les
t'as même pas ça pour sauver le jeu, quoi. Donc c'est vraiment problématique. Honnêtement, des points forts, j'ai vraiment cherché. Il y en a quelques-uns, comme j'ai dit, système de classe est sympathique et tout, mais c'est pas ça quoi. Qui va vous faire acheter le jeu, quoi.
Est-ce que tu sais de quand datait la build qu'ils vous ont fait essayer?
Non, ils l'ont pas précisé, mais.
Parce que bon, c'est pas pour en faire l'avocat du diable, mais des fois elle peut avoir plusieurs mois et ils ont pu énormément avancer depuis. Mais du coup, là, on sait pas.
Non, ils ont juste dit que. Qu'il y avait des bugs, ils savaient qu'il y en avait et qu'il fallait juste montrer magnanime par rapport à ça. Mais comme je l'ai dit, moi, le problème, c'est pas forcément les bugs, c'est pas ce qui m'a le plus choqué en fait. Moi, ce qui m'a choqué, c'est tout ce qu'il y a autour, quoi. C'est l'entourage autour des bugs qui m'a choqué, quoi. Voilà. Et puis, c'est aussi un gros éditeur qui est derrière, parce que c'est quand même Square Enix, c'est pas n'importe qui. Ils vont nous sortir FF7 cette année, etc. Donc, il y a quand même aussi ils ont aussi un gros bagage, donc ils se mettent à. Enfin, je me dis pourquoi il n'y a pas. Il y a bien quelqu'un à un moment qui va vérifier des chartes à respecter, qui vont dire ah, allez, il y a peut-être un problème, on va peut-être pas sortir sans
problème. Oui, alors c'est aussi l'éditeur
chef de projet.
Qui a fait Left Alive aussi il n'y a pas très longtemps, donc ils n'ont pas toujours le nez super creux chez Square Enix sur des projets un peu différenciés comme ça.
Tu dépends.
Ouais, mais en plus après.
Après, on verra peut-être qu'à l'arrivée, ça va être une tuerie absolue qui vont tout changer.
Après, c'est possible qu'ils. Parce que les retours sont quand même pas très bons majoritairement, c'est possible aussi que.
C'est pour ça qu'il faut venir aussi des. J'allais dire des journalistes, ouais, si,
ouais,
des gens qui connaissent un peu le truc, qui peuvent jouer et qui peuvent faire des retours après.
Très clairement, moi,
à mon avis, il se passerait bien de la mauvaise pub qu'on est en train de leur faire aujourd'hui. Hein.
Oui, mais si c'est pour arriver à quelque chose de bien au final, je pense qu'ils sont prêts à l'entendre, à mon avis. Enfin, j'espère pour eux, sinon ça serait grave.
Surtout que tu avais quand même Anthem où on avait tous senti le truc
Anthem,
venir. Et là, c'est quand même très, très exactement, c'est la direction que laquelle prend le jeu. Là. C'est la direction Anthem qui prend, parce que c'est exactement la même mécanique qu'ils vont ressortir, etc. Donc s'ils ont quand même un peu de nez, ils vont se dire, ah, on n'a pas envie de prendre la direction d'Anthem, est-ce qu'on ne retarderait pas nous-mêmes le jeu de base à sa sortie initiale pour proposer un truc plus polish, quoi.
Sauf si le deal de départ était d'être présent au lancement des consoles de nouvelle génération, dans quel cas, t'as pas trop le choix.
Souvent,
non plus,
t'as des jeux entre guillemets
rapidement
pour vous que ça sorte.
C'est le jeu qui sera en masse dans les bacs de
c'est ça, et puis les gens vont les acheter parce qu'il y aura peut-être que ça. Et...
Au début là, de la PS5.
Mais c'est important de se positionner au début d'une console, hein, parce que c'est là où tu peux faire aussi des ventes, ton chiffre.
Et des fois,
quoi.
Ne serait-ce que pour imposer une licence aussi. Bon, le premier était peut-être pas terrible, mais on était là, et puis le 2 va être vachement mieux.
Ouais, tout à fait, ouais, exactement. On verra, peut-être qu'il y aura 50 jeux à la sortie, mais c'est pas sûr. En général, il y en a une dizaine de jeux à la sortie, pas 150. Hein. C'est après que ça devient la déferlante, mais début d'une machine en général. T'as une dizaine de jeux, quoi.
Bah, c'est normal, si tu peux être là, les éditeurs sont un peu frileux aussi pour se positionner. Tu sais que tu vas pas faire des ventes astronomiques parce que tu sors sur une console qui a pas encore un parc installé et très important. Et c'est pour ça aussi qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeux qui vont être a priori compatibles sur les deux générations pour pas se couper justement d'une partie du public.
Bah là, c'est le cas, hein. Ça sera disponible aussi sur, 360, sur Xbox One.
C'est les images qui te font parler.
C'est ça, et sur PS4, ça sera aussi évidemment disponible. Et sur PC, bien évidemment.
Et sur PC. Et sa tête, regarde.
C'est moi qui ai créé le perso.
Quelle classe.
Le perso dégueulasse à moustache là.
Ah, dégueulasse.
C'est le tien. Ah, mais franchement, de toutes les images qu'on a vues, je me suis dit c'est vraiment le plus moche de tous les persos. Et c'est le tien, ok, d'accord.
Exactement. Bah, en même temps, il n'y avait pas trop le choix en fait. Donc, j'ai envie de te dire que.
Tu pouvais faire une meuf.
Ouais, tu peux faire une meuf.
Pouvais-tu faire une femme? D'accord. Mais il n'y a pas de robots, trucs comme ça, non, dans les
non,
choix.
Non, pour l'instant, non, non.
D'accord.
C'est que des humains.
Bon, t'as encore voté pour passer à la cinématique, tu fais chier, Camille.
Il va aller droit au but. C'est un homme d'action, Camille.
Alors que moi, j'aime bien regarder les cinématiques. Et bien voilà, bah écoute, ça n'a pas l'air si folichon que ça, hein, d'avoir ta description et de ce que t'en as pu, t'as pu en voir et jouer. Et voilà quoi. Donc, t'avais une session de combien de temps du coup? T'as joué 3 heures
4 heures, ouais, 3 heures et demie. Enfin, normalement, ça aurait dû être 4 heures, mais en fait, j'ai joué 3 heures à cause des bugs quoi.
Et du coup, c'est que du multi ou t'avais un solo aussi? Je me souviens plus.
Alors, t'as une partie, tu peux jouer en solo en fait le jeu, tu peux le faire en solo, mais d'accord. C'est préconisé d'y jouer en coop quoi.
D'accord. Ok, bah voilà, hein, je pense que t'as
on
tout dit sur titre, exactement. On verra par la suite comment se goupille Outriders, du coup, de People Can Fly, et puis bah, on espère pour eux qu'ils vont améliorer les choses en fonction de des retours qu'ils auront eus.
Et puis ils sont habillés pour l'hiver, hein?
Oui, mais parfois ça a du bon de faire ce genre de critique, hein, de toute façon. Merci Camille, passons tout de suite au thème number 2 avec Johnny One.
Tout à fait.
Qui va nous parler d'un jeu qui n'est pas du tout connu. Par l'humanité du jeu vidéo.
Voilà.
Street Fighter
jeu de combat
5
Fighter. Qui revient avec une champion édition. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la champion édition? Bah, c'est le même jeu que
mais
le
Street Fighter
jeu de base,
5,
hein.
Mais il y a écrit champion édition dessus.
Voilà. Si vous aviez déjà acheté Street Fighter 5 il y a 4 ans quand il était sorti sur PS4, eh bah, vous pouvez continuer à jouer avec les gens qui vont avoir acheté cette champion édition. C'est compatible. Ils avaient dit quand le 5 est sorti que jamais, jamais, au grand jamais, ils ne sortiraient d'autres versions de Street Fighter, que ce serait toujours la même. La même, bah oui, c'est toujours la même. Hein,
vous apprécierez le jeu d'acteur.
34 stages.
C'est toujours Street Fighter 5. Voilà.
Non, parce que du coup, juste pour préciser, toutes les mécaniques qui sont apparues avec celui-ci peuvent être téléchargées pour les possesseurs,
ouais,
justement,
voilà.
Street 5 Vanilla.
Voilà, voilà. Donc, bah tiens, cette champion édition, elle est disponible comment? Elle est disponible soit en bundle, donc avec le jeu de base si jamais vous l'avez pas. Donc nous on a eu ça, un bundle digital, voilà.
Ouais, c'est ça.
Soit elle est disponible toute seule si jamais vous avez déjà le jeu de base. Alors elle coûte 30€ en bundle, elle coûte 25€ toute seule. Voilà. Donc pour 25€, si vous mettez les 25€, vous avez tous les costumes là, les costumes de Beautiful Joe, de Blanca, de Guy de Zombie, de... enfin voilà, tout ça. Vous avez tout ça comme costume. Vous avez les 40 personnages des 4 Season Pass et vous avez tous les stages, sauf 4 stages. Les stages des tournois, des stages de compète qu'il faut payer encore. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné
malgré
les stages de
compète?
Malgré cette version où on nous donne tout sauf ça. Bah,
qu'est-ce que t'appelles des stages de compète?
Ceux qui sont utilisés en tournoi.
En versus
héros,
fighting. D'accord.
Okay. Le comment il s'appelle celui qui est à Vagram là? Le comité. Enfin voilà. Tous ces tournois là.
D'accord.
Et il est aussi disponible si jamais vous avez pauvre de vous, si jamais vous avez acheté le jeu, 70€, un season pass 1, un season pass 2, un season pass 3.
Ouais, tu peux me regarder dans les yeux, hein.
Vous avez acheté tous les costumes.
Oh, tu sais, tu dis ça parce que t'es vénère.
Vous avez acheté tous les costumes, enfin bref, voilà, vous avez dépensé, je sais pas moi, 300, 400, 500€ dans le jeu total. Vous pouvez tout de même n'acheter que le season pass 4. Voilà, on n'est pas obligé d'acheter la Champion Edition pour le prix de 20€. Voilà. Et
bah
par contre, les personnages, ils seront disponibles que quand ils seront disponibles avec le Season Pass 4. Que si vous achetez la Champion Edition, les 6 personnages du Season Pass 4 sont disponibles immédiatement. Voilà.
Tu me rappelles combien t'as mis dans Dead or Alive 5? Parce que je te trouve un peu moqueur.
Parce que tu charries et tout ça, mais en fait.
DOA 5, combien j'ai mis? J'ai dû mettre 200-300.
Ouais, voilà.
100, quelque chose comme ça.
On est d'accord. Okay. Voilà.
Vous êtes des petits joueurs avec Fortnite. Hein. Je vous ai pulvérisé. Alors, dites force.
Et du coup, on a le retour d'anciens boss aussi dans cette Champion Edition.
Ouais, ouais,
on a des vrais
donc,
nouveaux persos, mine de rien, en dehors des Season Pass.
7, là, qu'on voit à l'écran. Ouais. Alors, 7 qui a un design assez surprenant de femme dans cette nouvelle version, voilà, avec des cheveux longs, des boobs.
Et le cheveu
il a toujours sa grosse voix comme ça, un peu là, par contre.
Et est-ce qu'il a toujours ses attaques bien craquées?
Il a toujours ses attaques bien pétées.
Bah non, regarde,
où il t'aspire là, et après tu peux plus rien faire.
Mmh. Enfin, ouais, l'ultra qui pourrissait
tout
le monde.
Ça,
ouais.
Voilà. J'ai réussi à en battre. Alors ça a été dur, hein, l'apprentissage en ligne contre 7. Bah parce que bah, forcément au début j'ai perdu contre lui, hein, voilà. Mais après le temps de se remettre un petit peu en
t'as
joue.
T'as
et...
ou pas? Ah, t'as
non, non, non. Avec pourtant un perso qui a pas forcément le match-up le plus évident contre lui, Camille. Bah, j'ai réussi à bien me débrouiller au final contre les nombreux sets qu'on pouvait croiser en ligne du coup. Voilà. Oui, il y a bah de toute façon le roster.
Il y a Guile aussi qui est de retour de la série des Street 3 qu'on n'avait pas vu depuis d'ailleurs.
Non, là, ça y est, le roster, c'est enfin ce qu'il fallait. Hein. Il y a 40 personnages en tout, là, avec la Champion Edition. On est loin, hein, qu'il est loin le temps des 16 personnages jouables d'il y a 4 ans. Voilà. Donc là, 40, franchement, c'est très décent. Il y a des nouveaux, il y a des anciens, il y en a pour tout le monde. Il y a 2 Street Fighter 3, 2 Street Fighter 2, 2 Street Fighter 4, 2 Street Fighter 5. Voilà.
Et puis, ils ont pu bosser l'équilibrage aussi entre-temps,
oui,
mine de rien.
Oui, le jeu n'est plus tout à fait le même, hein, bien évidemment. Il y a des coups qui ont changé, etc. Si vous n'y avez pas touché depuis 4 ans, il se peut que votre personnage ne soit plus tout à fait le même. Ça ne fonctionne plus tout à fait de la même façon. Ils ont rajouté aussi des V-Trigger, des V-Skill. Voilà, donc on a un nouveau V-Skill, nouveau V-Trigger, un peu comme ils avaient fait dans Street 4 à l'époque, où ils avaient rajouté
un deuxième choix,
un deuxième ultra. Voilà, donc forcément, ça va pouvoir pas mal changer tes stratégies en fonction du personnage que tu prends.
Ça veut dire qu'au début, tu choisis entre deux V-Skill et deux V-Trigger, coup, avant de commencer
le match. Donc voilà, ça va pouvoir changer les matchs comme ce que ça a pu le faire dans Ultra SF4 à l'époque sur PS360. Donc ça, c'est pas mal, ça fait une bonne petite mécanique en plus. Mécanique, je suppose que vous y aurez accès sur vos 16 persos de Street Fighter 5 si vous n'avez que le Street Fighter 5.
Ah bah normalement oui, parce que justement vu que les deux sont censés être compatibles, voilà. Il faut que t'aies le même
là,
setup.
Ces nouveautés de gameplay là, elles sont valides. Vous y avez droit au deuxième V-Skill, au deuxième V-Trigger sur vos 16 persos de l'édition de base de Street 5 si jamais vous n'avez que ça à la maison. Voilà.
Putain, c'est quoi ce costume, sans déconner?
Ça, c'est un costume de Ghosts and Ghouls, non? C'est
ouais,
ça,
j'ai l'impression.
C'est
ouais.
Ghosts and Ghouls, c'est ça. Arthur.
Excellent.
Et puis Arthur, on dirait presque ogre dans Tekken
3.
Je sais qu'il a une armure, mais je sais pas, on dirait trop le boss de Tekken 3.
On dirait un Spartiate.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, j'ai l'impression que ça me rappelle 300 moi plutôt.
Après, il y a moyen de s'amuser avec les costumes, mine de rien. Alors, parce qu'il y a tellement
ça fait bizarre de voir Ryu là-dedans.
J'avais pas vu que c'était Ghost and Ghouls, j'avais pas vu que c'était Arthur. Et du coup, j'ai dit c'est Ghost and Ghouls en voyant le costume du mec de gauche là.
C'est l'inverse, c'est Ghouls and Ghost.
Ouais, Ghouls and Ghost. Voilà.
C'est sympa, moi j'aurais
non ouais le casting, franchement, c'est leur génie, il y a tout ce qu'il faut. Le gameplay a été revu à la hausse, mais attention, si vous n'avez pas de, si vous avez non le les modes combo, défi combo, etc., eux ils n'ont pas été remis à jour. Voilà, c'est toujours le mode défi combo du jeu vanilla d'il y a 4 ans. Voilà, donc non, franchement, c'est très complet, hein. Le jeu, il est enfin comme il aurait dû être il y a 4 ans.
Il y a 4 ans, c'est ça.
Même sans parler du nombre de personnages, hein. Même le jeu, il serait sorti il y a 4 ans avec 16 personnages, mais avec tout le contenu qu'il y a aujourd'hui dedans.
Tous les modes, surtout.
Tous les modes, voilà. Donc, il y a enfin des vrais modes solo. Il y en a beaucoup. Voilà, il y a de quoi faire. Il y a du survival, du training, du défi combo, du arcade, du duel, du survival, du mission bonus. Enfin, bon, bref, il y a tout ce que tu veux. Il y a des fonctionnalités en ligne qui sont assez démentielles, voilà.
Genre
au
quoi
niveau des fonctions communautaires notamment. Voilà, c'est très très complet, c'est un des jeux.
C'est-à-dire tu peux faire un tournoi en ligne et tout,
ouais,
ça.
Ouais, tu peux faire un tournoi, tu peux faire des replays, il y a des salons, il y a même des salons, des dojos, des genres de salons super privés. Enfin voilà, non, il y a vraiment énormément de fonctionnalités en ligne, les replays, c'est super simple, les classements, c'est super simple. Tout est très ergonomique, on va dire, très ergonomique et très accessible.
Il y a toujours cette fonctionnalité où tu peux un peu ouvrir ton jeu et te dire dès qu'il y a quelqu'un qui veut jouer contre moi, ça va interrompre justement
ça,
ma partie.
Ça depuis
ça fait longtemps, ça, je crois,
ça,
enfin je sais plus, mais
déjà fin de génération d'avant c'était un standard
sur le 4,
fin de génération d'avant dans les jeux de baston en général.
D'accord.
Oui, c'est ce qui me semble aussi, j'avais déjà vu ça
sur la Play 4, c'est une fonction de base des jeux de baston sur PS4 et Xbox One. Voilà. Non, ça ils le font tous. C'est un grand classique. Là d'ailleurs l'attente, elle peut fonctionner pendant que tu es en train de regarder les classements, les stats, des conneries, etc.
Voilà, et tu peux regarder des matchs, que des matchs si tu veux, tu peux que regarder si tu veux.
Ah, tu peux regarder les replays,
T'as mode viewer ou je sais pas quoi.
T'as des petits classements aussi, genre les meilleurs matchs de la semaine.
Bien évidemment, il y a toujours les classements en ligne, les classements en ligne qui ont évolué un petit peu. Pour ceux qui auraient crevé le plafond, mais il y a des nouveaux rangs. Voilà, disponible.
Ils ont monté le level.
Ils ont augmenté le level. Voilà, il y a toujours le classement direct, hein, ton classement des parties classées avec ton rang, ton nombre de points de combat, etc., etc. Non, le jeu est vraiment très 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 complet en termes de mode de jeu, il est très complet en termes de personnages, il est encore plus complet en termes de gameplay, ça c'était son seul point fort à l'époque quand il est sorti, et en plus de ça, donc il nous file tous les costumes, donc ça c'est génial. Dead or Alive, il l'avait pas fait, on en parlait tout à l'heure, hein. Moi, Dead or Alive, ils m'ont pas fait la version avec les 6 season pass de costumes, non, il n'y a pas eu ça, hein.
C'est le cri du cœur.
Il y en a eu 9, je crois, des season pass. Je sais plus. Moi, j'ai pas tout acheté. Hein,
putain, 9. T'imagines 200 costumes quand même si tu les
revendais. Ouais, 200 costumes.
Si tu leur vendais 20 euros pièce. Un peu comme dans Fortnite. Ça coûte à peu près ça. Hein. Une skin. T'imagines ?
Ouais, là, c'est tout le monde les mêmes.
Il reste des trucs à acheter avec la Fight Money, du coup, maintenant ? Pour les mecs qui vont prendre la Champion Edition.
Alors, il va y avoir quelques petits costumes exclusifs à cette version de Champion Edition. C'est-à-dire qu'il y a... Là, on te file 200 costumes, les 200 costumes DLC. Alors, il y en a qui sont géniaux, hein, genre, t'as du Capcom. Là, on a vu du Ghost and Ghouls, il y a du Mega...
Il y a du Devil May Cry, il y a du Darkstalkers.
Il y a du Darkstalkers, enfin, toutes les licences. Même Monster Hunter Blanca en Air Gigante, enfin, voilà. Il y a des trucs assez délirants.
Et ils sont disponibles dès le début, t'as pas besoin de gagner des matchs, des machins.
Ils sont disponibles dès le début, genre Camille en Resident Evil, je sais plus quel perso en Daong. Camille, c'est Jill Valentine, voilà. Ça fait plaisir, c'est mon main, et du coup, elle a un super
ça fait plaisir.
Costume. Voilà, ça fait plaisir. Enfin voilà, non, les costumes, franchement, c'est top, c'est génial,
c'est
extraordinaire.
C'est pas du foutage de gueule.
Non, c'est pas du foutage de gueule. Surtout qu'en plus, bon, c'était du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule quand ils les vendent en ligne à des prix exorbitants. Là, te filer tout ça pour 30 balles. Le jeu, les costumes, non, et les 4 saisons de perso, c'est très, 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 très réglo. Franchement, c'est bien. Alors, en effet, si vous 30 euros, hein, si vous aviez tout acheté au fur et à mesure,
c'est sûr que
condoléances.
La somme, elle est. Voilà. Ouais. Après, enfin, en même temps, tu n'aurais pas joué pendant 4 ans aussi. Hein.
Oui, non, puis quelque part, tu le sais, je veux dire, c'est l'école Capcom, ils l'ont fait pour à peu près tous les streets depuis le 2. En fait, il y a des révisions permanentes, donc tu peux t'y attendre. Si tu achètes le jeu en vanilla, tu sais que
si t'es en méga fan, tu payes et puis voilà.
Merci pour cette remarque, Thomas, qui va m'amener vers ma conclusion.
Mais je t'en prie.
Et voilà, ce street il est génial, mais est-ce que ce sera vraiment le dernier Street 5?
Non, je pense qu'il y aura un Street 5.4.
Street 5.4, ouais, tu vois.
Je sais pas.
Je sais pas. Donc là, on a eu l'arcade édition, on a la champion édition. Est-ce qu'il y aura de nouveau un season pass? Pour l'instant, ils ont rien annoncé. Parce que le season pass, en fait, en vrai, il commence au moment de la sortie de cette champion édition. Voilà.
On rentre dans la quatrième saison.
Dans la quatrième saison avec cette édition, même si tous les persos sont disponibles instantanément si vous avez la Champion Edition, pas si vous avez le Season Pass 4.
Et au niveau e-sport, c'est toujours avec ce jeu-là qui combat. Donc tant que ça marche, peut-être qu'ils vont continuer à l'alimenter. Ou je sais pas.
Donc voilà, est-ce qu'il y aura une cinquième saison, une sixième, et puis une Ultra Champion Turbo Diesel Edition? Qui sait? Je seul le sais.
Turbo hybride.
Voilà, mais bon.
Ah, donc, ça fait beaucoup après équilibré quand même. Au-delà de 40.
En tout cas, la 30 balles, franchement.
Bah, c'est sympa. Juste un petit mot sur la version PC, parce que moi, j'ai installé sur mon PC sur Steam et c'est super beau. Je trouve que c'est vachement plus beau que ce qu'on a vu à l'écran là. Bon, après, c'est un écran de télé, c'est pas un écran d'ordinateur, donc forcément, c'est un petit peu moins fin. Mais c'est vrai que sur PC, alors attendez, je vais vous dire sur quoi ça tournait. i9 9600K, 16Go de RAM et une GTX 1660. Et franchement, Johnny Yon, il l'a vu tout à l'heure,
c'est
hyper fluide, c'est hyper beau. Et honnêtement, la version PC, chapeau quoi. J'étais étonné de voir ça sur un PC. Moi, j'ai toujours été un peu réticent de jouer un jeu de combat sur un PC parce que voilà.
Il y a du crossplay PC PS4.
Bah, en plus,
alors le jeu n'est jamais sorti sur Xbox. Hein. Donc il est PS4 PC et on peut jouer ensemble. Même si toi avec ta version PC et moi avec ma version PS4 chez moi, on pourrait se faire des petits duels.
Se fighter.
Voilà.
C'est super, voilà, c'est génial. Hein.
Franchement, 30 balles, c'est top. Voilà. Mmh. Est-ce que c'est vraiment la dernière version finale? Tiens, pour ceux qui se demandent aussi, les collectionneurs, tout ça, est-ce qu'il y a vraiment tout sur la galette? Non, sur la galette, il y a le. Alors, nous, on a eu le.
Il y a que le jeu, en fait, c'est tout.
Non. Nous, on a eu un digital, donc bon, c'était un peu difficile de vérifier ça. C'est des membres de Gameblock qui ont vérifié ça, c'est Nicolas. Salut, Nicolas. Donc, lui, il nous dit que, en fait.
Il n'y a rien sur la galette.
Non, la galette, c'est pas la galette, là, celle qui est là-dedans, là, tu vois, dans cette boîte-là. Celle de Thomas. Là, lui, il a la galette 1.00.
D'accord.
La galette qui est dans la Champion Edition, c'est la galette 3.0.
D'accord. Voilà.
Donc, t'as les trois premiers Season Pass.
Et ensuite, tu télécharges tout le reste.
Tu dois avoir les costumes. Par contre, le Season Pass 4, il faut le télécharger. Mmh. Et lui, il n'est pas compris sur le disque. Hein. Voilà. Donc, c'est pas un truc de rétro gaming, machin et tout. Mmh. Voilà. Mais en effet, si on n'a pas eu de jeu il y a 4 ans, 30 balles, c'est bien. Et puis, même s'il y en a un autre après, bon, écoute, 30 balles, on ira jouer 2 ans.
Et puis, même si on n'a pas acheté les Season Pass, mais qu'on a pris Street 5 en vanilla, il s'est passé tellement de choses depuis que c'est la meilleure raison du monde d'y retourner, en fait.
Ça te fait le Season Pass à 30 balles. Enfin, ça te fait la
4 season pass pour 30
season
balles
pass
en fait.
À 30 balles.
Là, mais là, c'est maintenant qu'il faut l'acheter, quoi, c'est tout.
Donc avec un contenu quand même assez ouf, énormément de combinaisons, etc.
Disponible à 25 euros si tu as déjà, si tu as encore
si
ton disque, ton magnifique Street 5, voilà.
Faudra faire le calcul pour savoir tout ce qu'on payait, le... tous les trucs, plus l'upgrade en plus, hein, à 25 euros.
Non, si t'as déjà tout payé, tu prends que l'upgrade à 20 euros.
Oui, non, mais je sais. Plus... Mais si tu... si tu fais tout.
Et en plus, t'as pas tous les persos d'un coup. Il faut que t'attendes 6 mois pour tous les avoir.
Ouais.
Si tu payes 20 balles.
Bah oui.
Voilà.
La logique. Carotte. Parfait, parfait. Bah écoute, merci Johnny One. Hein. Donc Street Fighter 5 Champion Edition. Disponible. Et puis vous avez le test de Johnny One sur Gameblog, évidemment, pour avoir plus de détails encore.
9 sur 10.
Et 9 sur 10.
Indispensable.
Indispensable. Tout à fait.
Bah là, pour le coup,
avec un gros warning sur est-ce que c'est vraiment la dernière version.
Exactement.
Ça, et, vas-y, et nous on peut pas promettre. Et puis on les connaît. Hein. On les connaît.
La vérité sur toi, je la connais. Parfait. Thème number 3. N'est-ce pas, monsieur Thomas, ça va être à toi de parler de deux jeux, deux compiles de bons vieux shoot sur Switch, comme tu l'as dit.
Les jeux à la Greg, je crois que c'est comme ça que tu les appelles.
Exactement, à la Greg.
De l'époque
Joypad.
Bah parce que c'est les vieux jeux
truc.
Obscurs,
les
trucs d'arcade.
C'est un peu maquin, moi aussi, les shoot them up.
Bah ouais, vous êtes pareil, je crois, vous êtes un peu dans le même moule.
Ouais, et là, pour le coup, c'est des shoots qui viennent d'un éditeur qu'on connaît pas forcément. Ici, on a des amoureux de Cave, il y en a deux sur ce canapé. Là, en l'occurrence, c'est l'éditeur Psycho.
Alors,
Feu Psycho, j'ai envie de dire, puisque... le studio s'est éteint en 2003.
À cause de toi.
Ouais, exactement.
Tu vois.
Ouais, j'ai passé mon bac et
hop, il s'est éteint.
Et voilà, c'était terminé.
Fallait que t'achètes tous leurs jeux.
Exactement.
Et du coup, on a une bonne petite compile de jeux qui sont sortis souvent à l'unité, en fait, déjà sur l'eShop, mais qui là sont regroupés en deux compiles thématiques. Donc on a Psycho Shooting Stars Alpha d'un côté et Bravo de l'autre, avec vraiment deux approches un petit peu différentes, en tout cas sur le plan graphique, parce que grosso modo, sur le plan des mécaniques, on a le même schéma qui est appliqué à toutes les principales séries, en fait, de l'éditeur Psycho. C'est que vous avez des stages quand même assez courts. On est à la limite des fois du boss rush, en fait, en termes de durée, avec les premiers stages, en fait, qui s'enchaînent de manière assez aléatoire. Donc il faut être prêt à parer à toutes les éventualités.
Ouais,
puis ensuite
du random,
des stages du random au début sur les 4 premiers, et puis après les derniers stages qui vous emmènent vers la fin, qui eux sont structurés. Beaucoup de niveaux de difficulté. Alors ça, c'est quand même plutôt chouette, parce que du coup tout le monde, en fait, va pouvoir découvrir ou redécouvrir ces jeux. Alors on commence par
sans trop se faire fesser.
Ouais, sans trop se faire fesser.
Oui,
on commence avec la compile alpha, qui pour le coup, elle est un peu plus occidental dans son aspect visuel,
plus militaire,
plus militaire.
Strikers 1945.
Voilà, il y a les trois opus de Strikers 1945.
Auquel je jouais en arcade à l'époque.
À ne pas confondre avec les shoots de Capcom. Hein.
Oui, tout à fait.
Pour le coup, c'est.
Mais c'est pas le même nom. Il s'appelle juste la date, ceux de Capcom.
Oui, c'est 1945.
Ouais, c'est ça.
Entre autres.
1942.
Là, pour le coup, on a effectivement trois shoots militaires, avec le troisième qui se passe plutôt dans le futur. Les deux premiers sont pendant évidemment la Seconde Guerre mondiale, le troisième c'est dans le turfu, avec plusieurs vaisseaux, avec des types de tirs évidemment différents, des attaques spéciales, et surtout un principe de loop, en fait, puisque quelle que soit la difficulté que vous allez choisir au départ, une fois que vous avez terminé le jeu, vous bouclez avec la difficulté supplémentaire, évidemment. L'idée, c'est de continuer à scorer, sachant que vous pouvez évidemment régler à l'envi la difficulté et les continues, qui sont de toute façon illimitées, hein, on va pas se mentir, on est sur de la version console, donc on a mis tout ce qu'il fallait pour que ce soit pas frustrant.
Des fois, il faut jouer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures avant de les avoir, les continues.
Ouais,
ça dépend des jeux.
Voilà, alors que là, vraiment,
on donne
toutes
les
options sont proposées d'emblée, donc ça, c'est quand même plutôt cool. On peut vraiment se lancer, trouver le mode de difficulté qui convient, et puis surtout, justement, cette première compile, en plus des Strikers, on a Soul Divide, on a Dragon Blaze qui est vraiment dégueulasse, et Zero Gunner 2 que j'avais fait sur Dreamcast et dont j'avais gardé un souvenir sympathique. Alors Zero Gunner 2, il est assez particulier parce qu'en fait il faut changer l'angle de son vaisseau, enfin on peut tirer et en plus changer l'orientation de son vaisseau. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. C'est un shoot assez original. Mais surtout, on est plutôt sur du shoot classique. On n'est pas encore vraiment sur du Danmaku. Il y a qu'un Danmaku, en fait, dans la compilation alpha. Le reste, c'est plutôt du shoot traditionnel. Donc, pas encore trop vénère. Ça reste accessible.
Et du coup, tu joues avec la manette pro ou tu joues avec en mode portable?
Alors justement, c'est l'un des aspects qu'il faut qu'on évoque. Cette compilation, vous pouvez évidemment y jouer en portable. Le truc, c'est que sur la partie alpha, vous avez principalement des shoots verticaux. Et ils ont pensé à tout. Vous avez l'option, en fait, pour faire basculer l'affichage à 90 degrés. Sauf que les commandes, elles, ne changent pas. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser, ça paraît très bête, hein, mais vous retirez un Joy-Con, vous faites pivoter votre console, et puis du coup, vous avez un stick, des boutons, avec l'affichage à 90 degrés, et là, vous êtes le roi du pétrole, parce que vous avez un shoot vertical en plein écran, c'est magnifique, sauf qu'en fait, non, vous pouvez juste changer l'orientation de l'écran, mais pas la maniabilité, ce qui fait que vous êtes
un peu perdu.
En train de jouer à la verticale avec une maniabilité à l'horizontale, c'est ignoble.
Bah, alors, c'est impossible.
Les plus mordus qui ont déjà acheté le Grip Flip pour la Switch, qui permet sur le côté, justement de glisser l'écran et d'avoir les Joy-Con sur le côté, vous, vous allez vous régaler parce que du coup, vous avez le setup parfait pour y jouer. Moi, l'astuce que j'ai trouvée, ben, pour en profiter quand même, c'est de décrocher l'écran, de le poser sur mes jambes. J'y jouais comme ça dans mon canapé. Tu poses l'écran, tu détaches les Joy-Con et là, vraiment, t'en profites. Mais du coup, si tu te balades dans les transports, ben, t'es un peu foutu. Alors, pour les shoots horizontaux, ça marche très bien, mais pour les verticaux, c'est vraiment, vraiment dommage de pas avoir.
Jouer à un vertical sur l'écran de la Switch.
Bah, ouais, non, mais c'est ça.
Et autant jouer sur ton téléphone.
Après, il y a l'option, donc c'est quand même sympa. Mais
et t'as l'impression qu'ils ont pensé à plein de trucs, mais ils sont pas allés jusqu'au bout en fait, de la réflexion. C'est vraiment super dommage. S'il y avait une mise à jour qui réglait ce problème, vraiment, les deux compiles prendraient un point de plus chacune parce que elle serait vraiment agréable à prendre en main. Et du coup, voilà, c'est un petit peu le problème en fait. Si tu joues sur l'écran de ta télé, tu vas pouvoir faire un petit peu ce que tu veux et c'est pas un souci. Ils sont assez maniables, hein. Il y a un input lag qui est quand même assez réduit. J'ai pas ragé moi vraiment en y jouant. Mais voilà, c'est un vrai problème au niveau de l'affichage. C'est la même sentence dans la compilation Bravo que Poufy est en train de vous montrer.
Exact.
Là, bah voilà, c'est
plus japonisante celle-ci.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
Elle est beaucoup plus japonisante, mais là, ça vous montre l'affichage que vous allez avoir en fait si vous voulez garder votre console telle qu'elle. Vous avez un affichage vertical qui est quand même super restreint et malgré la présence de tout un tas de fonds d'écran et de tout ce que vous voulez, il manque quand même quelque chose quoi.
J'ai fait toute une génération de shoot'em up comme ça sur 360, ça m'a plus gêné que ça.
Ouais, mais
mesure,
là t'es sur une console qui a un écran justement qui est fait pour, mais tu vois, tu détaches un Joy-Con et t'as ta petite borne d'arcade.
Ouais.
C'était l'occasion rêvée, tu vois, il y avait vraiment quelque chose à faire.
Dès que j'avais l'occasion, j'avais quand même quelques écrans qui se switchaient. Dès que j'avais l'occasion, je le faisais. Je ramenais la console, je switchais l'écran et je me faisais du shmup en full screen.
Bah ouais, c'est quand même vachement plus appréciable.
Du coup, c'est que sur Switch, il n'y a pas moyen d'y jouer sur Android ou iOS.
Oui, mais sur Switch.
Non, c'est sorti sur Switch pour le coup. Parce qu'en fait, tous les jeux, ou quasiment tous les jeux, sont sortis sur l'eShop séparément. En fait, là, vraiment, tu les as compilés.
Dans un bundle avec une jolie boîte.
Dans un gros
OST,
bundle avec une jolie boîte.
C'est vrai que la boîte est grosse en plus.
Et plein de goodies, effectivement, qu'on listera juste après. On va juste revenir sur ce qui compose justement la Bravo que vous avez
d'accord.
là. Donc, avec évidemment une thématique beaucoup plus japonisante, puisque en l'occurrence, vous avez Samurai Aces 1, 2 et 3. Donc, pas la peine de vous faire un dessin. Hein. C'est du Japon médiéval, mais avec des mechas et ce genre de trucs. Donc, des décors très, très, très typiques de ce qu'on imagine du Japon un peu fantasmé, des temples, ce genre de choses, des yokai, enfin voilà. Plein de trucs quand même assez sympas pour ceux qui aiment le
des
jeu japonais.
Bizarre.
Et la série des Gunbird, donc Gunbird 1, Gunbird 2, et le très étonnant Gunbarish, qui est un peu la surprise que je ne connaissais pas du tout dans cette compilation. Les Gunbird, bon, bah, on est sur du Danmaku japonisant aussi, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et Gunbarish, c'est plutôt un espèce de casse-brique en fait, avec quelques petites mécaniques de shoot 'em up. On a pu le voir tout à l'heure, Poufy vous l'a un petit peu teasé. Là, une fois
exact.
De plus,
c'est
un affichage vertical qui lui sied le mieux. Vous avez en fait votre vaisseau que vous allez déplacer, une balle que vous allez faire rebondir pour justement péter des briques, mais en plus des ennemis qui vont vous envoyer des boulettes qu'il va falloir des fois ou esquiver ou renvoyer en fonction de leur couleur. Bref, on est sur un petit mix qui est assez sympa, avec en plus une dimension vraiment enfantine, parce que c'est les boss, c'est des ours en peluche, ou des bonbons, enfin des trucs à la Hansel et Gretel, etc. Donc un petit côté décalé, et on pourrait se demander ce que ça vient faire là-dedans, mais comme c'est un espèce de spin-off en fait de la série des Gunbird, bah c'est plutôt une bonne idée. En plus, ça équilibre les deux compiles qui ont toutes les deux 6 jeux à proposer, donc avec à chaque fois de l'horizontal, du vertical, et puis un petit bonus pour la version Bravo. Donc c'est quand même plutôt cool. Moi je vous cache pas que la Bravo a vraiment ma préférence, et ça s'est ressenti dans les deux tests, puisqu'elle a un point de plus que la version alpha. Ne serait-ce que pour les thématiques, pour la présence de pas mal de Danmaku, parce que quand même quand on aime le shoot'em up, on a envie d'avoir
le shmup basique, ça a vieilli, hein.
Un peu de boulettes à se mettre sous la dent, et on est assez d'accord pour le coup, le shmup à l'ancienne c'est sympa, mais Mais c'était une autre époque quand même, et surtout faire du Danmaku avec parfois 7 niveaux de difficulté, bah ça permet quand même de se lancer dedans ou d'y jouer de manière un peu casu, et franchement c'est super plaisant parce que le shoot à la base c'est devenu quand même un genre de niche, et le Danmaku c'est le genre de niche d'un genre de niche, mais là il y a vraiment de quoi faire, et je trouve ça plutôt chouette que n'importe qui puisse comme ça s'essayer à ce genre de shoot, c'est quand même plutôt sympathique.
Avec des dragons en plus.
Et alors effectivement, si vous achetez la version physique...
Putain, mais qu'est-ce que tu veux faire là?
Ah bah, c'est faut répéter.
Et là, qu'est-ce que tu veux faire?
Faut répéter, faut se faire buter, connaître les patterns, bah recommencer ouais. encore et encore. Et c'est là où justement le côté aléatoire des 4 premiers stages est pas forcément évident, parce que quand c'est à chaque fois un stage différent qui te fait commencer la partie, ça peut être un petit peu compliqué. Mm-hmm. Bon, celui-là par contre, c'est sur la compilation Bravo, c'est vraiment celui que vous pouvez oublier. Hein. Je crois que c'est Samurai 6-3, il est...
Ah ouais? Je trouve ça classe.
Ah non, quand tu vois le début, il est.
Le personnage féminin là, qu'on voyait au début.
Début de shoot en 3D.
Moi, c'était un truc, ça me faisait.
C'est pas beau.
Je me rappelle, c'était un design que j'avais vu dans un magazine probablement quand j'étais gosse.
C'est vrai que ça a l'air très basique.
Je me rappelle de cet article là, je l'ai lu en flash, ça me faisait rêver. Voilà, ah ouais. C'est tout. Mais apparemment, tu dis que c'est de la merde.
Ok, c'est une anecdote. Non, bah, c'est vrai que c'est pas très beau quand même déjà.
Dans chacune des compiles, il y a un jeu qui est oubliable à chaque fois. Ça vous fait quand même 5 shoots qui sont quand même.
Ça fait un peu pitié.
Relativement, voire très sympathiques. Donc il y a quand même de quoi faire en fonction de vos préférences, que ce soit un truc réaliste militaire ou si vous aimez plutôt le Japon barré, bah vous allez prendre ou l'Alpha ou la Bravo. Et si vous craquez pour les versions physiques, et bah vous allez repartir effectivement avec une grosse boîte à l'intérieur de laquelle vous aurez évidemment le jeu dans sa version boîte, avec l'OST de tous les titres qui sont présents. Donc à chaque fois vous avez 6 OST en fait répartis sur un double CD dans chacune des boîtes, c'est quand même plutôt cool. Et un petit booklet aussi qui sert d'artbook, enfin c'est vraiment le mini artbook histoire 2.
Ça c'est l'avantage
du physique.
Du physique.
Et puis quelques cartes postales histoire d'agrémenter le truc. Donc vous avez quand même un contenu assez dense. Je veux dire c'est généreux pour des versions physiques.
Il y a une différence de prix entre le démat et le.
Oui parce que les versions physiques sont proposées à 60 balles chacune. Donc t'es vraiment plein pot.
Il faut quand même mettre un peu les sous.
Voilà, il faut y mettre le prix. Vous pouvez sinon vous contenter après des versions dématérialisées qui marchent aussi très bien. Voilà, et franchement si vous aimez le genre, et ben vous avez de quoi faire. Je vous invite à lire les deux tests. Non mais c'est quand même super moche, on est d'accord.
C'est moche.
Ouais, non, particulièrement
non, mais l'arbre
moche,
tout à l'heure juste avant
qui cache la forêt.
C'était trop bizarre.
Voilà,
quoi.
Celui-là c'est le jeu oubliable de la compilation Bravo.
Il capitalisait sur le design de l'héroïne.
On dirait un jeu Atari ST des débuts.
Non, c'est pas gentil quand même.
Des débuts.
Attends, il y a de la gestion 3D de profondeur et tout.
Ouais, mais enfin bon.
Ne blasphémons pas non plus. Donc voilà, si vous voulez revivre
si vous voulez acheter des super collecteurs de l'enfer
quelques belles heures du shoot 'em up et puis surtout découvrir tout un tas de licences de l'éditeur Psycho, c'est l'occasion, pardon, les deux compilations sont disponibles sur Switch et puis si vous avez la chance d'avoir un grip flip, et ben là vous êtes le roi du monde, mais vous le savez déjà.
Exactement.
Puis ça coûte moins cher que s'acheter une Integral Cave sur Xbox 360.
Tout de suite.
Évidemment. Mais après, c'est pas les mêmes jeux non plus.
Exactement. Alors
on va pas se mentir.
Bon allez, merci beaucoup Thomas pour ces deux compiles qui tombent pile qui s'appellent donc Psycho Shooting Stars Alpha et Psycho Shooting Stars Bravo.
On dit Psycho en fait parce que Psycho en japonais ça veut dire super, c'est un peu un jeu de mots du coup genre la super.
Avec un P devant tu dis.
Ouais. Non mais les japonais c'est
ah ouais.
C'est leur vision
Psycho.
Psycho.
Psycho Shooting Stars Bravo. Voilà. Ok, super. Bravo. Encore une fois. Et si nous passions tout de suite à l'anniversaire, qu'est-ce que tu en penses Thomas?
Oui.
Je crois que c'est un super anniversaire de Ace Attorney que je ne connaissais pas.
Ouais, c'est ça. Et ben, c'est le dernier qui est sorti chez nous justement en boîte. Vous l'avez peut-être fait ou pas.
Et ben non.
C'est Ace Attorney Investigations de
Objection.
Miles Edgeworth, qui était donc l'un des personnages les plus appréciés des fans, qui s'appelle Benjamin Hunter, je crois en français.
Et c'est faux, votre honneur.
Mais Edgeworth, depuis, puisque le jeu malheureusement fait partie des
prosecutors,
des titres qui n'ont pas été localisés dans notre belle langue.
Ah bah c'est pour ça.
Et c'est le dernier à être sorti en physique chez nous. Les ventes n'ont pas été très bonnes, hein, ceci explique cela. Mmh. Et voilà pourquoi il faut sans doute se contenter de versions dématérialisées pour la série.
Ace Attorney
désormais. Et donc dans celui-ci, c'était le premier spin-off de la série Ace Attorney, et vous le voyez si vous connaissez un peu la saga, l'angle de vue est complètement différent puisque
effectivement, c'est pour ça que ça me disait rien, fait.
On n'est plus dans un espèce de point and click où on se déplace à la première personne d'un lieu à un autre. Là, on incarne Edgeworth de pied, enfin de pied en cap, voilà, on le voit avec son assistante Kay Faraday, qui va mener l'enquête quand même, parce qu'on reste sur un gameplay de jeu d'enquête à la Ace Attorney, mais dans un style un petit peu différent en fait, puisque les développeurs l'ont présenté, c'était un peu quand même le procureur star du premier épisode d'Ace Attorney, il était vachement plus malin, du coup ils ont rehaussé un petit peu le niveau en termes d'envergure, en termes de drama. On est sur des enquêtes qui sont un peu plus high level, on va dire, que dans la Ace Attorney, parce que le mec c'est pas un débutant non plus, c'est un type qui a de la bouteille, du coup c'est un peu perfide, les enquêtes sont assez longues, on alterne entre des phases d'enquête, des phases d'interrogatoire, et puis surtout il y a ces moments où on rentre dans sa tête et où il faut relier certains éléments pour que Edgeworth comprenne ce qui s'est passé et puisse avancer dans l'aventure. Et c'était super chouette, c'est un jeu qui est quand même assez dense, il y a 5 enquêtes à mener à bien, le contenu est vraiment conséquent, et malheureusement sa suite n'est jamais arrivée chez nous. Il y a eu un Miles Edgeworth 2 qui est sorti en 2011, mais nous malheureusement il aura fallu se contenter de celui-ci, qui était donc sorti le 19 février 2010. On fêtera donc son anniversaire pile poil le jour où sera diffusé ce podcast.
Tout à fait.
Et voilà, c'était l'occasion de lui rendre hommage et de rappeler à Capcom que on nous a promis un 7e épisode numéroté, et on attend toujours la compilation des épisodes 4 à 6, monsieur dame.
Voilà. Tout à fait.
Si vous nous entendez,
Capcom, c'est les spécialistes de la compilation un peu.
mais là on l'attend, tu vois, la compile. Donc ils nous l'ont promis, dépêchez-vous.
Ça marche. Parfait pour cet anniversaire, donc essai tourné à Capcom, si tu nous écoutes.
Et si vous aimez la série, dites-le, faites-le savoir à Capcom.
Exactement.
C'est très important.
Envoyez-leur un milliard d'emails au nom de Thomas. Voilà.
Ok, je prends.
Ça t'apprendra. Tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons parler du hors-jeu de la semaine. Et c'est hors-jeu. C'est Johnny Wan qui va s'en charger.
Senseiya.
Tout à fait, exactement.
On reste dans le manga.
Exactement, on va parler de... Pas vraiment, c'est plus vraiment du manga, là c'est de la série animée.
Ok, écoute...
La série animée Netflix,
c'est plus du manga, c'est du blasphème.
Chevaliers du Zodiac, Senseiya, les Chevaliers du Zodiac.
Ça ressemble à ça, écoute, j'avais jamais vu.
Ouais, ça ressemble à ça, t'as vu.
Et tu vois, je découvre en même temps.
Ça ressemble à ça parce qu'en fait c'est un peu américain, et puis tu sais les américains ils sont fous des trucs genre Pixar, etc. Voilà. Du coup c'est un peu pour que ça plaise aux jeunes en fait. Surtout.
Ça leur plaît aux jeunes ça?
Bah écoute, j'imagine.
Visiblement, ouais.
Okay.
J'imagine visiblement. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, voilà, c'est une série Netflix.
Je sais pas, ça va être un long temps. Donc je pense que t'as des choses à dire.
Donc on avait déjà eu droit à un film d'animation en 3D il y a quelques années, il y a 5 ans de ça, 6 ans de ça maintenant. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais bon, c'était un peu nul de toute façon.
D'accord.
Tous les combats étaient expédiés, ça durait 1h30. Enfin bon, bref. Non, c'était pas top. Là, franchement, sincèrement, moi j'ai regardé, c'est un peu mieux. C'est pas la panacée non plus.
Non, mais est-ce que c'est un
mais
milieu pour toi
c'est pas mal.
Ou dans l'absolu?
Non,
peut-être
dans
que pour toi c'est plus de ton âge
mal.
Maintenant.
Non, dans
mais...
l'absolu, justement.
Bah donc et les gamins, ils doivent être
fous. Quand je te dis que c'est pas mal, je suis assez objectif quand je te dis ça.
Ah oui.
Voilà. Je suis même assez objectif aussi parce que moi j'ai kiffé. Je l'ai, comme on dit, binge-watché, voilà, c'est ça.
D'accord.
En gros, j'ai commencé, je me suis pas arrêté, je me suis arrêté quand j'ai fini. Ça va assez vite.
Il y a deux saisons de 6 épisodes.
Il y a deux saisons de 6 épisodes. Tu regardes pas tout d'un coup.
Sauf si c'est vraiment très
bien. Non, mais moi j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé.
Donc 240 minutes en tout.
Il y avait un peu de ça quand même. Il y avait un peu de guilty pleasure. Parce que ça reste chez les Zodiac, ça reste un truc qui a 30 ans et qui est un peu niais.
Mais je trouve ça propre quand même.
Voilà. C'est super plutôt propre.
Vous avez vu l'animation, les gars c'est...
Oui, non, mais je parle propre du design. Je veux dire.
Ça, c'est quoi? C'est du 15 frames par seconde là enfin...
Bah oui, mais à la japonaise.
Je sais pas.
C'est normal, ils ont voulu reproduire le truc.
Enfin voilà, donc on a deux saisons de 6 épisodes, voilà, 20 minutes l'épisode, ça se regarde très
vite. Donc 240 minutes, si j'ai bien calculé.
Voilà, et c'est plus ou moins le même fil rouge que dans le manga. C'est-à-dire la première saison, elle va s'intéresser à quoi? Elle va s'intéresser au tournoi des chevaliers. Vous savez quand les 10 chevaliers de bronze, donc il y a les 5 héros, pas le phénix parce qu'il est pas là, ce traître. Et il y a aussi la licorne, le lyonnais, l'ours, là ceux qui sont pourris là tous. voilà. Donc ils se battent dans un tournoi pour.
Je suis lion moi. Enculé.
Pour savoir qui aura droit de porter l'armure d'or, voilà. Avec bien évidemment, spoiler, l'intervention de phénix à la fin, voilà, qui va venir un peu tout niquer. Donc ça c'est les 6 premiers épisodes.
Il y avait les tanks et les hélicoptères dans l'original.
Non, parce que en fait on te rajoute un fil rouge dans cette série.
Je suis désolé de me dire que ça me choque énormément quand
même. Attends, oui, mais en 2020.
C'est quoi, c'est
non,
l'armée
Non, c'est pas l'armée d'Hadès.
On est en 2020, les amis.
Attends, je t'explique. Je finis mon fil rouge.
Oui,
en
vas-y,
gros,
vas-y.
C'est la première saison. Et deuxième saison, c'est les chevaliers d'argent qui attaquent les chevaliers de bronze, puisqu'ils se sont servis de leurs armures à un but personnel dans un tournoi pour essayer de remporter l'armure d'or. Donc le sanctuaire envoie des assassins, les chevaliers d'argent, pour traquer les chevaliers de bronze. Ça, c'est la deuxième saison. Et donc, il y a toujours cette histoire-là. Ça, pour l'instant, ça suit le même fil rouge. Voilà. Mmh. Ça se termine comment ? Bah, forcément, avec Saori avec une flèche dans le cœur. Et on va du coup avoir une ouverture vers ce que sera la troisième saison. Donc voilà ce qu'on va suivre dans les deux premières. Mais on va tout de même avoir pas mal de petites différences. La première, elle est grosse, elle est énorme. C'est des tanks, des hélicoptères, des machins, des trucs. Parce qu'en fait, il y a un troisième méchant. Dans le manga, on s'intéresse uniquement à la rivalité, enfin la guerre interne au sanctuaire. Voilà. Les chevaliers dissidents contre les chevaliers fidèles au pop. Là, non, là, il y a un troisième méchant. Alors, c'est la fondation, je sais plus quoi. C'était un pote de Mitsumasa. Voilà, mais qui lui a shifté. Il est devenu un peu fou. Et du coup, il a câblé. Il a créé une super société secrète avec des chevaliers noirs. Tiens, d'ailleurs, c'est amusant. Du coup, les chevaliers noirs sont des créations humaines.
Dark voilà. Knights.
Les Dark Knights. Voilà, donc on a quand même pas mal de petites différences. Qu'est-ce qu'on a d'autre, par exemple? Tiens, Sean d'Andromède, bah ça y est, c'est une meuf.
Moi je connais Sean le mouton, voilà. Mais c'est bon.
Donc ils ont fait du personnage une femme. Voilà, y a d'autres petites différences comme ça. Enfin voilà, c'est pas mal fichu, c'est pas dérangeant. Voilà.
Tu trouves que ça s'intègre bien à la trame
scénaristique?
C'est, non mais parce qu'envoyer l'armée d'un coup.
Bah écoute, ça leur fait leur entraînement en plus. En vrai, ils sont assez humains ces chevaliers. Ils sont plus humains que
la réponse à tout,
que les chevaliers du.
Parce qu'il est crédité au générique.
Non, malheureusement, non. Bon, je non. Donc l'histoire elle est plutôt cool, même si elle est différente, même si c'est vrai que ces nouveaux enjeux ils sont assez particuliers avec ces nouveaux méchants. Il y a aussi un autre truc qui m'a un peu gêné dans le scénario, c'est qu'en fait les chevaliers d'or ils sont au courant qu'il y a une nouvelle Athéna, tous. Par contre, pourquoi est-ce qu'ils veulent la tuer? Ils veulent la tuer parce qu'il y a une prophétie. Et cette prophétie veut que, en fait, Athéna, bah, c'est une grosse loseuse, elle va perdre la guerre. Du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit au sanctuaire? Bah, tiens, Athéna, du coup, plutôt qu'elle nous fasse perdre la guerre, bah, tiens, on va la tuer. Voilà. Et du coup, ils essayent tous de la tuer, c'est con, quoi. Donc, ils sont vraiment bêtes et méchants, en fait. Là où il y avait une histoire de manipulation et de traîtrise dans le manga. Voilà. Donc, ça, bon, bref. Ils peuvent encore retourner leur veste, hein. Ils peuvent encore nous faire un twist. Ah, mais en fait, c'était une manipulation. Mmh. Bref,
ou un rêve, ça marche.
Il n'y a jamais eu de prémonition.
Un rêve éveillé.
Voilà. Non, du coup, l'histoire, franchement, plutôt cool. Hein. Même si c'est vrai que certains combats sont un peu expédiés, ça va un peu vite. On a des petits gimmicks dans les combats qui reviennent assez régulièrement, genre l'animation d'une attaque qui viendrait un peu comme une cinématique se déclencherait dans un jeu vidéo quand on fait le truc, ou pareil idem quand tu me parles des hélicos, des machins et tout, les hélicos ils ont tous la même mort avec le même plan, quoi.
Voilà. Ce serait presque comique en fait.
Ouais, ça en devient comique.
C'est presque parodique.
Non, ça en devient un peu comique à un certain point.
Mais ils l'ont pas fait exprès, je pense.
Je pense qu'ils l'ont fait exprès parce que de l'humour la série n'en manque pas. Elle sait se prendre un petit peu second degré. Et si ce genre de gimmick de baston, c'est un peu drôle. Et ça va faire plaisir à qui? Forcément, l'autre public à qui pourrait être destinée cette série, que les vieux cons aigris là, qui vont la regarder, les enfants. Voilà.
Bah oui, c'est ça qu'ils
les
ont encore pas connus.
Et bah eux, ça va être rigolo quand ils vont voir que la troisième fois, l'hélicoptère il a explosé pareil que l'autre. Ah, c'est rigolo. Enfin voilà, ce genre de petits trucs. Non, c'est pas mal du tout. Le design est bon, il est ce qu'il est, hein. Il plaira, il plaira pas. Le design des armures, c'est le même que dans le manga. Ouais, ils ont pas changé, ça c'est plutôt cool. Même si les chevaliers de bronze n'ont pas de casque. Voilà, ça c'est réservé aux chevaliers d'argent et aux chevaliers d'or. Ils se démerdent. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette série? On retrouve quelques voix de doublage de l'époque. On retrouve Virginie Ledieu, qui était la doubleuse de Saori à l'époque. Voilà, qui double toujours.
C'est fou ça quand même.
Voilà. 30 ans après.
30 ans après, j'étais en train de calculer, mais ça doit être quelque chose comme ça.
Les deux saisons elles se regardent en 4 heures.
Ouais. Donc t'aimes bien
Chevalier
final,
Zodiac. Moi franchement j'ai bien aimé, c'est bien passé. Allez-y, c'est mieux que le film. Vous pouvez y aller.
Que j'ai jamais vu.
Il n'y a pas trop de soucis.
Mais okay.
N'en attendez pas trop, hein. N'attendez pas.
Mais ça picore quoi, je veux dire, l'épisode, si t'accroches.
Ça passe tout seul.
Comme
non,
tous les
franchement,
Netflix,
c'est vraiment
voilà,
pas
quoi.
Alors, du coup, on précise, la première saison, elle était sortie l'année dernière.
L'année dernière, novembre 2018, saison 2, là, janvier de cette année. Voilà, mi-janvier, je crois. Moi, j'ai regardé ça ce week-end. J'ai fait, mais c'était bien en fait, parlons-en. Voilà.
Donc voilà, ça vient de débarquer du coup sur Netflix.
Parfait, écoute, nickel. Hein. Nickel. Et c'est quoi le titre précis alors?
Senseiya, les chevaliers du Zodiac. Il n'y a pas de titre particulier. Ouais, ouais.
Donc vous cherchez ça sur Netflix et vous allez trouver et vous allez vous régaler.
Alors sur Netflix en ce moment, t'as toutes les séries des chevaliers du Zodiac possibles et inimaginables. Ah ouais. T'as les Hades, t'as le film. Non, il n'y a pas la série d'origine par contre. Mais ouais, t'as Hades, t'as le film et t'as ça. Hades qui a un peu vieilli d'ailleurs, du coup j'ai regardé parce que c'était un truc, on trouvait ça. Wow,
ça me fait toujours peur moi à chaque fois de retomber sur des trucs comme ça, tu te rappelles? Non.
Bah, non mais ce qu'il faut savoir c'est que les Chevaliers Zodiac, t'as eu une première... Enfin,
j'ai jamais aimé les Chevaliers Zodiac.
Les 28 tomes du manga sont sortis d'un coup d'un seul, on va dire, plus ou moins.
Je suis pas très...
Enfin, l'auteur Kurumada, il a fait son taf du début à la fin, mais la série animée elle s'est arrêtée. Il y a 3 arcs dans le manga, Le Sanctuaire, Poseidon, Hades... Bah en fait il y a eu que 2 arcs dans la série animée. Il y a eu le Sanctuaire et Poseidon. Ils en ont rajouté un autre au milieu, Asgard. Mais on n'a jamais eu droit au 3ème arc. Et quand on était gosse à l'époque du club Dorothée, ils l'ont fait. Ils l'ont fait il y a 15 ans déjà.
Ah oui, d'accord.
Alors ils l'ont fait en 2 parties. Ils l'ont fait il y a 15 ans et il y a 10 ans. Voilà. Donc cette suite elle est sortie finalement un jour. D'ailleurs elle est sortie avec des nouveaux jouets, les Midcloth, enfin bon bref, les boîtes de Pandore de portefeuille, ce genre de choses. Enfin non, ils ont ressorti les séries avec tout un milliard de jouets, etc. Enfin bon bref, ils l'ont bien mis à l'envers à tous.
Logique.
Et bah ça j'ai re-regardé du coup ces séries là, bah elles ont pris un petit coup de vieux.
Ouais.
Ouais.
Bah
forcément. Ouais, ouais. Pourtant à l'époque on était là, mais waouh c'est magnifique, le Chevalier des Zodiac, la nouvelle série, waouh, waouh. Bah non là ça y est, ça fait 15 ans, bah ouais. Ouh là, mais c'est un peu pixelisé. Ouh là, définition n'est pas terrible.
Ouais,
bah,
enfin voilà. Logique.
On parle de celle-là dans quelques années parce que ça fait déjà un peu vieilli, je trouve quand même.
Ouais, mais je trouve que le design ça va, moi, c'est pas non plus catastrophique.
La 3D, c'est, je sais
pas. Ça reste une série, tu vois.
Ça a l'air assez basique quand même. Quoi. Mais c'est pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de moyens derrière. Basique.
Oh, je pense pas. Je pense pas. C'est des Américains qui l'ont fait, je crois.
Ah oui, ça se voit, oui.
C'est des petits.
Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est à l'américaine.
Il y a 2-3 petites surprises. Le destin de certains personnages qui changent. C'est assez amusant
à
de voir que leur destin a changé.
Bah, je trouve c'est quand même propre. Hein,
non, franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Ça se regarde très bien. Et si vous êtes fan des chevaliers, allez-y.
Ça rappelle un peu les trolls, la série Netflix.
Ça va passer tout seul.
Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup, Johnny One, donc pour ce jeu. Senseiya. Donc la série animée sur Netflix, si vous voulez la regarder. Allez-y. C'est tout chaud. La saison 2 est toute chaude, elle vient de sortir.
Et la saison 3, on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera.
La saison 3 arrivera un jour.
J'espère
peut-être.
12 épisodes.
Grâce à lui.
Pour la guerre du sanctuaire, la montée des 12 maisons des
D'accord,
chevaliers.
D'accord, t'as spoilé tout le monde, ça y est.
Ouais,
ou pas.
Bon, écoute,
ouais, il a spoilé un manga des années 80.
C'est vrai, c'est vrai.
Déjà toute l'histoire. Hein.
Peut-être pas, peut-être qu'ils vont faire un truc complètement différent en fait.
Bah, j'espère
ou pas.
Pas
du tout.
J'espère qu'ils vont monter les 12 maisons et que ça durera 12 épisodes.
Bah ouais, écoute, ce serait logique, pas de soucis. Ça marche. Eh bien, écoutez, voilà, ainsi se termine ce podcast de la semaine. Un petit podcast, comme vous avez pu le constater. Il y aura sans doute beaucoup plus de choses dans quelques temps quand les...
Petit par la taille, mais...
Exactement. Quand la PS5 sera enfin annoncée. C'était pas le 5 février, non, normalement ?
Si, je crois.
Si, c'est ça. Hein. Ok, c'est pas grave. Bon !
Non, mais on a dû louper un truc.
T'es vrai ?
Ouais.
Ok, tu m'as eu. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et d'ici là, eh bien, écoutez... Jouez bien, portez-vous bien, et puis à très bientôt.
Exact.
Ciao, ciao.
Et plein de gros bisous.
Ciao.